C'est quand même une histoire assez extraordinaire. Vous en avez forcément eu vent de l'histoire de Jeanne Calment, ou plutôt de la façon dont on voudrait nous la raconter, autant de versions contradictoires, capricieuses ou carrément complotistes, qui nous rappellent surtout qu'une histoire, dès lors qu'on la raconte, c'est toujours de la fiction, c'est toujours mentir un peu. C'est ce qu'on dit, oh tu le connais, il raconte des histoires. Celle de Jeanne Calment a ceci d'exemplaire qu'on ne parle pas de n'importe qui, mais de la doyenne de l'humanité quand même. C'est pas une histoire, c'est la grande histoire. Mais aussi l'histoire d'une dame qui a raconté sa vie alors qu'elle était déjà très âgée, avec les troubles et les errances qu'il peut y avoir quand à la fin de sa vie, on se penche sur son passé. Et puis enfin, une histoire qui a été reprise, qui a été redite, qui a été réécrite par tant de larrons qu'on ne peut pas échapper à la fiction. Pour deux chercheurs russes qui entendent prouver par A plus B que notre doyenne n'était en fait qu'une imposture, il suffirait d'enterrer son corps et celui de sa fille pour enterrer la fiction. Mais vous pensez vraiment qu'on peut l'enterrer, la fiction, qu'on peut faire taire les histoires, qu'il suffit d'une preuve scientifique pour qu'on arrête de s'en raconter? Ce serait mal nous connaître.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, mon invité ne cesse de se raconter des histoires entre vie réelle, imaginaire et rêvée. Elle continue de s'amuser avec les lois de la fiction. Son quatrième long métrage, Les Estivants, sera après-demain l'histoire d'une réalisatrice en vacances sur la Côte d'Azur, tourmentée par le départ de son mari et l'écriture de son nouveau film. On y retrouve les ingrédients qui font la singularité de son cinéma, amour, autodérision et cette oscillation jouissive entre le rire et les larmes. Bonjour Valéria Bruni-Tedeschi.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Merci pour cette présentation magnifique.
Mais c'est vous qui m'avez soufflé hier l'histoire de Jeanne Calment.
Oui.
Pour quelle raison?
Déjà, ce que vous dites, ça, c'est voilà cette chose de la fiction qui rentre dans la réalité, mais aussi l'imaginaire de l'humanité qui espère vivre éternellement. Dans la Bible, il y a comme ça des personnages qui ont 500 ans. Et aussi, qui on est, un peu comme dit Pirandello, qu'on est quelqu'un, on est personne, on est 100 000. Alors on est soi-même, on est son enfant on est sa mère. Et tout ça, je trouve ça complètement passionnant.
Comme si on était un millefeuille.
Oui, ouais. Oui. Et aussi le mensonge, et aussi la grande blague. Tout est une grande blague. On est là, on pense qu'il y a un être humain qui a vécu 122 ans. Et ben non, c'est peut-être sa fille. C'est une blague.
Ou peut-être pas.
Ou peut-être pas.
Si ça se trouve, l'imposture, elle est du côté des Russes, Valéria.
Et peut-être les morts vont nous dire quelque... Oui, peut-être l'imposture est du côté des Russes, comme souvent, mais peut-être... peut-être les morts vont nous dire quelque chose si... Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de frontière entre la vie et la mort. Ils continuent à nous faire des blagues de l'au-delà. Je sais pas, ça m'intéresse.
Ça. Ouais. En tout cas, ça m'a fait penser moi aussi à un documentaire que vous aviez fait il y a 3 ans et qui s'appelait Une jeune fille de 90 ans, parce que vous y abordiez les questions de l'âge et du vieillissement. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs pour vous, vieillir?
Déjà que j'ai co-réalisé avec Yann Corridan, c'est important de le dire. Et vieillir. Ça veut dire ne plus s'émerveiller, ne plus avoir d'espoir.
C'est quelque chose qui vous effraie?
Oui, parce que ça me guette de plus m'émerveiller, de ne plus tomber amoureuse dans le sens large du terme. Ça me guette et ça me guette l'amertume, ça me guette la tristesse. Et moi, j'aimerais au lieu continuer à avoir la même envie de vivre que j'avais à 20 ans. Et c'est ça la bataille que je fais tous les jours.
Dans votre nouveau film Les Estivants, et dans lequel joue votre mère, Marisa Bruni-Tedeschi, vous semblez nous dire dans une scène bouleversante que le plus dur effectivement dans le fait de vieillir, c'est de se dire qu'on ne connaîtra plus jamais l'amour, qu'on sera plus touché, qu'on sera plus embrassé.
Oui, je pense que embrasser, pour moi, c'est l'amour. Et que ne plus embrasser, c'est l'idée de ne plus embrasser. C'est vertigineux.
Mais qu'est-ce qu'elle en dit, votre mère, qui réclame un baiser dans le film? Parce que moi, je pense qu'il y a des personnes âgées qui peuvent encore s'embrasser.
Ouais, ma mère est d'accord avec moi.
Ah, c'est
elle
vrai?
Était super contente de faire cette scène. Super contente. Tellement contente que j'ai fait revenir les acteurs, elle et Bruno Raffaelli, qui est extraordinaire, et dans le film, et qui m'a donné l'idée du film, d'ailleurs. C'est un comédien un acteur de la Comédie Française. Et je trouvais que le baiser n'était pas assez vrai, donc j'ai fait un retake de cette scène, ce qui est très rare parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et je les ai fait revenir sur le tournage.
En tout cas, c'est intéressant, Valeria Bruni-Tedeschi, parce que c'était l'enjeu de votre documentaire que j'évoquais tout à l'heure, un documentaire dans lequel vous étiez très en retrait, tout comme vous l'étiez dans l'adaptation des Trois Sœurs de Tchekhov que vous avez réalisé pour Arte. Être en retrait, ça c'est pas vraiment dans vos habitudes. Qu'est-ce que ces deux projets ont changé en fait dans votre manière d'aborder votre nouveau film Les Estivants?
Ben énormément. Les Estivants, c'est plein des Trois Sœurs. Très, très plein des Trois Sœurs. D'ailleurs, il y a deux acteurs, Bruno Raffaelli et Laurent Stocker, qui étaient dans Les Trois Sœurs, qui est un film fait avec les comédiens de la Comédie Française. Et qui était un film comme ça, choral. Bon, évidemment, c'est une adaptation de Tchekhov, une adaptation que j'avais faite avec Noémie Lvovsky et Caroline Deruas. Et c'est plein. L'univers de Tchekhov, évidemment, nous inspire toujours, avec Agnès de Sassy, avec qui j'écris aussi, nous inspire. Et aussi le documentaire, le fait de ne pas diriger des acteurs, mais juste regarder et être en observatrice et pas en pas volontariste. Oui. Ça m'a donné très envie de diriger les acteurs différemment. Oui. Et dans ce film-là, il est plein des deux autres films que j'ai fait avant.
Et on va pas se mentir quand même, effectivement, il y a d'étranges similitudes avec vos précédents. C'est la poursuite quand même d'un projet de cinéma.
Oui.
Je pense à Il est plus facile pour un château notamment, mais aussi à Actrice et Un château en Italie, pour les citer.
Quelle est la différence entre ce film et les trois autres films que vous avez faits? Parce que c'est... On a vraiment des similarités énormes, non?
Est-ce que vous avez conscience que votre scénario est fragile?
Oui.
Oui.
Non.
Et si on vous demandait de le raconter en une phrase, que diriez-vous?
Ben, ça parle de ma vie. Mon frère est mort il y a 2 ans. Et ça parle d'un frère, d'un fiancé.
Vous voulez un peu d'eau?
C'est l'une des premières scènes des Estivants. Valeria Bruni-Tedeschi, votre personnage est confronté aux membres d'une commission de financement du CNC. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette scène qui est pleine d'autodérision et qui dit explicitement aussi quelque chose de votre cinéma? Tout est vrai?
La terreur qu'on éprouve quand on rentre dans cette salle devant ces gens qui nous regardent, ça c'est vrai. Après, si se passe une catastrophe amoureuse juste avant dans le café de la rue d'en face, là, voilà, c'est ça la fiction et ce qu'on a imaginé avec les co-scénaristes, c'est qu'est-ce qui se passe. Alors, si je viens d'être quittée juste avant cette commission, là, c'est une horreur.
C'est une horreur. C'est la catastrophe.
Et en plus, il y a Frédéric Weisman dans la commission qui me regarde. C'est encore plus l'horreur.
Quand on vous dit que vos films se ressemblent, comme pour sous-entendre quelque chose de négatif, vous répondez quoi, vous? Qu'est-ce qu'on répond à ça, en fin de compte?
Ouais, je trouve que c'est une chose qui est tellement vague et pas précise et pas... que je sais pas quoi. Moi aussi, je deviens vague et pas précise. Je dis, ah ouais, bon, je sais pas quoi dire. Mais en même temps, c'est une chose qui revient. Donc, peut-être c'est une chose que les gens ressentent.
Oui, vous le dites dans chacun de vos films jusqu'à présent. Vous avez parlé de votre vie, de ce qui vous arrive, de ce qui vous est arrivé, les angoisses, les séparations, les deuils. Et vous dites que vos films sont des autobiographies imaginaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est une journaliste à Venise qui m'a dit ça. Et je trouvais que c'était une expression intéressante parce que c'était deux mots qui n'allaient pas ensemble. Autobiographie et imaginaire. Alors tout ce qui ne va pas ensemble, j'aime bien, ça fait un petit choc. Et en plus, il y a imaginaire après. Ça veut dire que l'imaginaire est plus important que l'autobiographie.
Ouais. Comme dans l'expression réalisme magique en littérature.
C'est exactement ça.
Mais de quel besoin, de quelle nécessité, de quelle urgence est-ce qu'il est né, le besoin de faire ce film, précisément?
De la première scène de rupture, c'est sûr. C'est une scène dont j'ai écrit peut-être, 100 versions qui étaient beaucoup plus longues, qui se passaient dans la rue, qui se passaient sans le producteur, avec le producteur, avec... Enfin bon, comme ça. Mais en tout cas, l'élan du film, c'était ça. Après, et là aussi, c'est comme toujours un film, c'est deux chocs aussi. Après, il y a eu Bruno Raffaelli qui m'a fait donner à lire Les Estivants de Gorky. Et là, j'ai vu un terrain de jeu... merveilleux, cette maison de vacances avec les propriétaires, les employés, les amis. Voilà, et je me suis dit, ah, ça m'intéresse. Et si il y avait un prologue qui était cette scène de rupture et après cette femme arrivée en vacances. Et là, il y a une troisième source d'inspiration, c'est le livre de Cyrus Vett, Un été sans homme, où elle est quittée et ensuite elle arrive en vacances, elle ne le dit pas. Parce qu'elle pense que si elle ne le dit pas, ça n'existe pas.
Ouais.
Et donc voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si j'arrive dans cette famille, dans ma famille, sans le dire?
Et vous attendez quelque chose de ces films, que ça change quelque chose dans votre vie à vous? C'est une question que je me suis posée.
Oui, j'attends quelque chose, mais j'ai pas raison de l'attendre. J'attends toujours. Enfin, c'est comme Xavier Dolan, il avait dit ça quand il avait dit, ouais, j'attends qu'on m'aime, je fais des films pour qu'on m'aime. Donc c'est évident que c'est ça. Qu'on fait, c'est un peu cucu, mais c'est vrai.
Peut-être aussi de donner un sens, tout simplement, à quelque chose, de mettre de l'ordre aussi.
Oui, ça, plus de façon plus, disons, plus intelligente et plus adulte, je dirais. Le bébé, il attend qu'on l'aime, et puis la personne adulte essaye de mettre de l'ordre et de donner du sens et de tendre un fil entre le passé et le présent et de faire que les gens qui sont partis reviennent et de faire que les morts, non seulement de convoquer les morts, mais et de parler d'eux, mais de leur donner la parole.
Oui. Mais quand est-ce que vous avez compris, Valeria Brunetelski, vous dites adulte, que l'art et la création, le cinéma notamment, c'était des réponses au désordre. Justement, c'est récent, ça?
Je pense que c'est de façon intuitive depuis toujours, peut-être. Mais pas, je ne me l'étais pas formulé. Peu à peu, je me le suis formulé. Que c'était une façon de donner un peu d'ordre à quelque chose qui est incompréhensible, qui est l'existence.
Mais franchement, quand on met en scène des histoires si personnelles qui concernent des proches également, est-ce qu'on ne risque pas justement d'amplifier le désordre et de créer le chaos total?
Oh non, il y a eu des fois... Dans des précédents films où il y a eu des malentendus et des gens proches qui se sont vraiment fâchés, je pense que c'est des malentendus. Parce que je pense qu'un film, s'il est fait avec honnêteté et avec amour pour les personnages, tout en les critiquant, tout en étant en jouant, en étant cruel, mais avec amour, je pense qu'il ne peut pas être néfaste.
Oui. Et en même temps, cette question de la pudeur, de la légitimité à vous approprier certains événements, elle est centrale dans le film Les Estivants,
oui.
Où votre personnage se consacre à l'écriture d'un scénario sur la mort de son frère, scénario qui était celui d'un château en Italie. Et votre sœur, dans le film, vous dit que vous ne pouvez pas parler de ça, en tout cas.
Oui.
C'est un sujet tabou. Et dans quelle mesure, je me suis posé la question, du coup, Valeria Brunetelski, écrire, ce n'est pas toujours transgresser un interdit, en
oui.
fait.
Oui, Bertolucci, une fois, il m'avait dit ça, il avait dit, mais tu sais ce que je lui disais, mais tu sais, justement, je ne sais pas, les gens autour de moi. Il dit, mais tu sais, un film, c'est toujours un petit crime. Mets-toi le cœur en paix, c'est toujours un petit crime.
Un petit crime?
Un petit crime, il m'avait dit.
J'adore l'expression.
Ouais, un piccolo crimine. Je me souviens d'où j'étais au téléphone quand il m'a dit ça. Et ça m'a un peu détendue, au fond. Mais non, mais je trouve que c'est un sujet passionnant. En même temps, j'aime pas en parler avec les journalistes quand ils me demandent, mais est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai? Ça m'ennuie. Mais par contre, le sujet en soi,
ouais.
Par exemple, s'il y a des pages de Philippe Roth sur ça qui sont, moi, vraiment, c'est un sujet qui me passionne. Donc, ou dans certains films de Woody Allen, il y a la sœur qui dit non, tu dois pas parler. Alors, on a dit, bon, ben, comme c'est intéressant, comme sujet, on va essayer de le mettre dans le film et donc de donner la parole à ceux qui sont pas contents. Donc, à des personnages, le personnage de la sœur, le personnage du frère mort. J'avais fait un rêve juste avant le château en Italie, où mon frère lisait mon scénario et me disait « je t'interdis de faire ce film ». Et j'ai quand même fait le film. Et là, c'était une façon de dire « bon, ce rêve, quand même, je vais lui donner la parole, en faisant parler le frère ».
Celle qui ne s'interdit rien dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture. Et son actualité, sans scrupule, que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 28 janvier? Des fauves, des femmes et de l'indé, le palmarès 2019 du Festival de BD d'Angoulême révélé samedi soir fait la part belle à l'édition indépendante et aux autrices. Après le grand prix remis à la mangaka Rumiko Takahashi, c'est l'américaine Emile Ferris qui a reçu le Fauve d'or pour Moi ce que j'aime c'est les monstres chez Monsieur Toussaint Louverture. Femme toujours, Emily Gleason avec son magnifique Tête drôle de coco chez Atrabile repart avec le Fauve révélation, tandis que Jen Wang, publié chez Aquileos, remporte le prix jeunesse avec Le prince et la couturière d'Enfer.
Bonjour, c'est Henri Chapier, quelques heures avant l'ouverture du Festival de Cannes.
Chapier s'échappe. Immense critique de cinéma, journaliste, mais aussi réalisateur, Henri Chapier s'est éteint hier. Il avait 85 ans, créateur de l'émission culte Le Divan, dans lequel il confessa près de 300 invités. C'est improbable sosie d'Andy Warhol. Était aussi l'auteur de 4 longs métrages, notamment Salut Jérusalem, sélectionné à la Mostra de Venise en 72. Passionné d'images, Henri Chapier avait participé en 94 à la création de la Maison européenne de la photographie à Paris, qu'il présida jusqu'en 2017. Salut l'artiste.
Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi.
Roi de l'Eurovision, cette fois c'est fait. Bilal Hassani, chanteur youtubeur de 19 ans et jeune phénomène queer, s'est qualifié samedi soir pour être le représentant de la France au concours de l'Eurovision en mai prochain. Sa chanson « Roi » qui lui a permis de s'imposer face à des chanteurs confirmés comme Chimène Badi ou Emmanuel Moir est déjà un phénomène. Avant de le recevoir dans Boomerang un jour, on espère, on réécoute l'interview que Bilal a accordée à Léa Salamé ce matin à 7h50. Big up Bilal.
Bon, en tout cas on est à poil quand on écrit, ça c'est clair.
L'écrivain Eric Holder est mort mercredi. Il avait 58 ans seulement, auteur de romans, de nouvelles, d'essais et de poèmes, artiste sensible, aquarelliste. En plus du reste, il laisse une trentaine d'ouvrages, notamment La Belle Jardinière, récompensée du prix Novembre en 1984, et Dans Compagnie des Femmes, salué d'un prix Roger Nimier en 1996. Mais son roman le plus célèbre reste Mademoiselle Chambon, adapté au cinéma par Stéphane Brisé en 2009. R.I.P. Et Valéria Bruni-Tedeschi, invitée de Boomerang ce matin pour les Estivants. Je vous ai senti émue sur Henri Chapier.
Ouais, je sais pas, d'entendre sa voix, ça m'a fait un retour en arrière.
Il y en a des retours en arrière en ce moment, ça a été un peu compliqué. Comment ne pas vous faire réagir d'ailleurs à la disparition de Michel Legrand, vous qui, dans Une jeune fille de 90 ans dont on parlait tout à l'heure, utilisiez l'une de ses chansons, c'était Les Moulins de mon cœur, je crois.
Ouais, chaque fois c'est incroyable ces chansons, c'est comme si ça rentrait dans notre... dans notre subconscient, c'est comme si ça faisait partie de notre peau.
Quel sujet est-ce que c'est pour vous la mort, en tant qu'artiste, Valéria ?
C'est tout le temps là, tout le temps. Et puis au lieu, il faut quelque chose qui va contre. Tout le temps, il faut aller contre.
Ça veut dire qu'on doit en rire ?
Ou l'amour. Ou l'amour qui va contre. Enfin, pour moi, c'est l'amour la seule chose qui me désangoisse vis-à-vis de la mort, c'est l'amour.
Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, dans la vie ? Je me suis posé la question, parce que tout est possible, j'ai l'impression, en voyant vos films.
Ce qui me fait rire, c'est les gens qui sont drôles. Il y a des gens qui ont vraiment le talent d'être drôles. Mais il y a des gens très très drôles. Et j'adore. Hier, je disais vraiment, c'est rare que je ris en ce moment de ma vie. Mais c'est vrai que quelqu'un qui fait des imitations, par exemple, quelqu'un qui tourne en ridicule j'aime bien tourner en ridicule les petites catastrophes de la vie quotidienne.
Et au cinéma, qu'est-ce qui vous fait rire ?
Par exemple, il y a Blanche Gardin, elle me fait rire.
Elle est drôle, ouais.
J'adore.
Elle est très drôle.
J'adore.
Et vous, vous faites rire, vous ?
Moi, parfois, quand je me fais pas rire, mais j'aime bien faire rire en racontant des choses horribles qui me sont arrivées. Ça, j'ai du plaisir. Et même, je me dis parfois, heureusement que cette chose horrible m'est arrivée, comme ça, je peux faire un petit spectacle avec les copains.
Et oui, le petit spectacle, ça peut devenir intime, parce que c'est quelque chose que vous interrogez dans Les Estivants. Vous nous invitez à réfléchir à ce qui distingue, d'un point de vue scénaristique, en fait, le drame de la comédie, j'ai l'impression. C'est quoi la différence ? Il n'y en a peut-être pas, tiens.
Ouais, il n'y en a peut-être pas. C'est peut-être vraiment, ça joue peut-être à quelques secondes. C'est-à-dire que si on arrête une scène à un certain moment, c'est un drame. Et si on la poursuit un tout petit peu, eh ben peut-être que ça devient une comédie.
Oui, mais pourquoi, Valéria Bruni-Tedeschi, est-ce que vous êtes toujours, quoi que vous racontiez, même lorsque vous racontez ce qui est insoutenable, je pense à une scène de déjeuner où il est question de viol dans le film, pourquoi est-ce que vous êtes toujours du côté de la comédie ?
Je pense que ça, c'est un goût, vraiment, c'est un goût en tant que spectatrice et aussi en écrivant et aussi en individu dans la vie. Ça me fait comme une bouteille d'oxygène, oui. La comédie. Et aussi, c'est un goût avec les personnes avec qui j'ai écrit, avec Noémie Lvovsky, avec Agnès de Sacy. On a toujours eu déjà l'envie de se battre contre l'esprit de sérieux.
Oui.
Mais ça ne veut pas dire ne pas être mélancolique.
Est-ce que vous êtes comme Fellini qui accrochait à la caméra une pancarte qui disait « Ceci est une comédie ».
J'adore cette histoire-là. J'adore.
Et c'est vous qui me l'avez racontée parce que moi, je ne la connaissais pas.
J'adore. Je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est comme si au milieu de la tristesse, du rêve, de la mélancolie, de l'amour, de ci, de ça, on disait quand même « N'oublions pas ça, n'oublions pas ça ».
Et pourquoi il faut s'en souvenir ?
Parce que c'est comme Tchekhov qui dit la condition humaine est ridicule.
Et insupportable, parfois.
Ouais, mais surtout, elle dit ridicule. Et ce mot ridicule, je trouve que ça détend. Ok, on est ridicule, alors on a moins peur.
Ça détend et ça réchauffe. Rassurez-moi,
oui,
vous n'avez pas froid, là, ce matin.
Ouais, on est bien, là.
On est bien, là. Bon, on va continuer à se réchauffer, alors à parler de cinéma. Juste après une chanson que vous connaissez par cœur, j'imagine, si je vous dis Maché Fredofa, de Nadar, 1960. Maché, mais je suis nul en italien, moi. Qu'est-ce que vous répondez si je vous dis ça?
J'adore. C'est Valeria Golino qui me l'a fait entendre. Et voilà, on l'a utilisée pour le film. C'est la chanson du film. C'est le cœur du film.
Parce qu'il s'agit de se réchauffer.
Ouais.
Bon,
ouais. Quand on n'a pas d'amour, on est tout froid.
Vous savez quoi? On en a ce matin. Vous êtes sur France Inter. Pas n'importe où. Avec Valeria Brunet-Tedeschi, vous écoutez Boomerang. On est un lundi de janvier. Et soudain, comme par magie, on n'a plus froid du tout.
Il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, come le donne le speranze buttai giù. Questa vita cos'è se manchi tu? Sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, come le donne le speranze butta giù. Oh, questa vita cos'è?
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Avec elle, on risque pas du tout d'attraper un rhume ou de tomber malade, ça je vous rassure. On est quelque part entre la brume de chaleur, l'huile essentielle, le carré de soie autour du cou et le sirop pour la toux. De la douceur dans son regard bleu, mais pas seulement, quelque chose d'inquiet aussi, d'imprévisible, peut-être même d'un petit peu fou. Qui sait, tout en noir ce matin. Valéria Brunetedeschi, cinéaste, comédienne, invitée de Boomerang pour les estivants en salle après-demain. L'histoire, on le disait, d'une cinéaste qui vient de se faire quitter par son compagnon et qui descend, comme chaque été, dans la grande et demeure familiale où elle va essayer de travailler sur le scénario de son prochain projet. Et comme souvent chez vous, les dialogues fusent en fait en italien et en français. Quelle langue est-ce que c'est pour vous ? Tiens, l'italien.
C'est ma langue. Ma langue, c'est l'italien. Je suis italienne et de enfance italienne. C'est donc en français, je suis plus à droite et plus forte.
Comment ça, plus à droite ?
Oui, je me sens plus forte et plus normale. Et au lieu en italien, je me sens plus fragile et plus enfantine, mais plus proche de moi.
Dans le film, j'ai remarqué quand même que c'était la langue que vous parliez quand vous êtes seule avec votre sœur.
L'italien,
ouais.
Ah bah oui, oui, oui. Et on passe dans le film de l'italien au français, parce que, en fait, au bout du compte, ma langue, c'est un mélange d'italien et de français.
Au point qu'on se demande quelle langue on a parlé dans le film quand on sort du...
C'est une langue nouvelle, disons.
Ça
c'est une autre langue.
Des problèmes pour produire le film, justement.
Non, en France, non, heureusement, parce qu'on on a le goût et la culture des films sous-titrés, mais en Italie, oui, en Italie, on a dû faire des versions du film que en italien. Et pour moi, c'est un crève-cœur. C'est vraiment, on dénature complètement mon film, parce que mon film, c'est cette espèce de, voilà, de choses bizarres, de familles bizarres que j'essaye de raconter.
Quel genre d'enfance est-ce que vous avez eu d'ailleurs? Une enfance heureuse, vous?
Eh ben, elle était heureuse et puis très angoissée.
Ah bon?
Ouais, j'ai toujours été angoissée.
Par quoi?
Je sais pas. Depuis que je me souviens, j'ai toujours été très angoissée.
Quelle place avait la joie?
Ah ben, je suis angoissée et gaie.
Ouais.
Les deux en même temps. Donc ça fait un truc bizarre.
C'est une famille dans laquelle les arts avaient aussi une très grande place. Votre mère était pianiste, votre père compositeur. Comment est-ce que vous en êtes venue, Valéria Brunetedeschi, à vous tourner vers le théâtre?
C'est venu avec beaucoup de déambulations. Je voulais danser, puis j'étais pas douée pour la danse, puis j'ai fait des études, puis je me sentais trop seule en étudiant. Et puis je suis allée au théâtre et peu à peu, un jour, je suis tombée amoureuse.
Mais par hasard, vous avez découvert le théâtre par hasard?
J'aimais étudier. J'avais un professeur qui s'appelait Madame Morlon qui me faisait étudier Tchekhov, comme ça. C'était vraiment incroyablement excitant d'étudier, d'analyser les textes. Et puis je lui dis, je veux faire du théâtre. Et elle m'a dit, non, tu dois continuer des études. Sinon, ou tu fais des études, ou tu deviens actrice et tu deviens folle. Alors là, j'ai eu envie d'être actrice.
Et vous êtes devenue folle ou pas?
Non.
La différence entre la danse et le théâtre, c'est aussi la voix. Il y a eu un moment où vous avez eu envie de les dire, ces films-là, ces textes-là plutôt?
Oui, c'est la voix, c'est les émotions dans le corps et dans la voix. Comment les émotions surgissent? C'est ça le travail incroyable que fait un acteur. Comment faire surgir, ou même parfois essayer de ne pas faire surgir. Parce que Chéreau disait que ce qui était important, c'est d'essayer de retenir les émotions.
C'est ce que vous leur dites à vos comédiens quand vous les dirigez, même si vous
les disiez... Je leur dis pas de retenir, mais je leur dis surtout, je les pousse pas à faire. Je leur dis jamais pleure.
Ouais.
Jamais, 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 jamais.
Mais ça vient toujours?
Les pleurs?
Ouais.
Ça vient ou ça vient pas, mais c'est pas très important de pleurer. En fait, parfois, quand on est très très mal, on ne pleure pas.
Entre nous, ça a servi? Ça vous a aidé, ce métier? À soigner, à guérir, à soulager?
Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est pas du tout thérapeutique. Ni ça m'aide, ni ça me fait du mal. C'est mon travail, c'est mon métier. Ça m'aide à... Disons que le fait de travailler ou d'essayer de bien travailler m'aide à être un peu contente de moi le soir. Mais c'est pas plus que ça. Je dépasse pas les choses en les racontant.
À la joie et à l'angoisse, on va faire le pari de la joie quand même ce matin.
Oui, oui, oui.
Et terminer cette émission avec la lecture d'un texte que vous nous avez apporté, qui est le tout début du livre Le Bel Été de Cesare Pavese.
Oui, c'est un ami à moi, hier, qui m'a dit, Thierry de Peretti m'a dit, lis la première page du Bel Été. Alors je l'ai lu et j'ai trouvé ça fulgurant. À cette époque-là, c'était toujours fête. Il suffisait de sortir et de traverser la rue pour devenir comme folle. Et tout était si beau, spécialement la nuit, que lorsqu'on rentrait, morte de fatigue, on espérait encore que quelque chose allait se passer, qu'un incendie allait éclater, qu'un enfant allait naître dans la maison, ou même que le jour allait venir soudain et que tout le monde sortirait dans la rue et que l'on pourrait marcher, marcher jusqu'aux champs et jusque de l'autre côté des collines. « Bien sûr, disaient les gens, vous êtes en bonne santé, vous êtes jeune, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de soucis. » Et même l'une d'entre elles, Tina, qui était sortie boiteuse de l'hôpital et qui n'avait pas de quoi manger chez elle, riait elle aussi, pour un rien. Et un soir où elle clopinait derrière les autres, elle s'était arrêtée et s'était mise à pleurer parce que dormir était idiot et que c'était du temps volé à la rigolade.
C'est fou comme il vous ressemble, ce texte-là.
C'est magnifique.
Non ?
C'est magnifique.
Merci de nous l'avoir fait découvrir. Cette première page du Bel été de Cesare Pavese qu'on peut retrouver dans la collection L'Imaginaire aux éditions Gallimard. Et merci infiniment Valéria Brunier-Tedeschi d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Les Estivants, avec Valéria Golino, Pierre Arditi, Yolande Moreau, Laurence Tocqueur, Marisa Brunier-Tedeschi...
Borini de son nom d'artiste.
C'est vrai. Oumi Brunigal, il y en a tellement. Sort après-demain et que c'est peut-être, à mon avis, votre plus grand film. Merci,
merci pour ça.
Et quelle belle
merci.
Façon de commencer la semaine. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
J'ai toujours envie.